Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je vous retrouve avec un grand plaisir comme chaque jour jusqu'à 16h pour écouter et partager vos expériences de vie. À mes côtés, ma charmante camarade Ombline. Bonjour Ombline, comment
allez-vous
ma
chère ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci beaucoup.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Absence ou baisse de libido, troubles sexuels tels que le vaginisme ou l'éjaculation précoce. La sexualité est un domaine très normé où performance et régularité sont valorisées. Au sein d'un couple, la relation sexuelle représente un temps essentiel de plaisir et de complicité. Pourtant, les hommes comme les femmes peuvent un jour ou l'autre développer certains troubles sexuels qui très souvent leur font perdre confiance et assurance face à leur partenaire. Derrière ces troubles se cachent beaucoup de questions, de doutes, de tourments. Et s'il existe des solutions, le sujet est souvent perçu comme trop tabou pour oser entreprendre des démarches. Alors un couple peut-il survivre sans sexe ? Comment réinventer sa vie sexuelle lorsqu'on souffre de certains troubles ? Troubles de la sexualité, le couple mis à l'épreuve, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Vos témoignages au standard d'Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute, pour nous écrire et nous faire part également de vos histoires. Et Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Morgane sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Morgane, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Morgane ?
Alors, j'ai 26 ans et je vous appelle actuellement du Val-de-Marne, mais normalement je suis dans le 91.
D'accord. Alors vous Morgane, à l'âge de 16 ans, vous avez compris que vous souffriez d'un trouble sexuel appelé vaginisme. Pouvez-vous nous expliquer ce trouble ?
Alors, en fait, le vaginisme, c'est quand simplement la pénétration n'est pas possible, que ce soit une pénétration sexuelle ou une protection hygiénique, par exemple, ou un doigt, enfin, oui. N'importe quelle pénétration en général n'est pas possible.
Mmh. Alors, mais comment l'avez-vous compris ? C'est parti de quel trouble ? Au début, vous ne deviez pas comprendre ce qui vous arrivait ?
Non, au début, effectivement, on comprend pas ce qui nous arrive. Moi, j'ai découvert ça un tout petit peu avant. En fait, j'avais 14 ans et quand j'ai voulu essayer les tampons. Ça a pas fonctionné. Ça m'a fait très mal. Ça passait pas. Donc, je me suis posé des questions. Mais bon, à 14 ans, on n'a pas de vie intime. Donc, on s'affole pas plus que ça. Et à l'âge de 16 ans, quand j'ai voulu faire ma première fois avec mon premier vrai petit copain, ça a pas fonctionné. En fait, c'est pas simplement au moment de la pénétration. C'est pas rentré quoi. Ouais. Et du coup je me suis dit il y a peut-être un souci, mais à ce moment-là on prend pas ça vraiment en compte tel quel, on met plus de temps à comprendre ce qui nous arrive et ce que c'est.
Et vous dites que lorsque vous avez 19 ans, une relation amoureuse importante pour vous s'est terminée à cause de ce trouble. C'est quelque chose qui a eu des conséquences sur votre confiance en vous?
Oui, forcément, ça joue un petit peu parce que du coup, on a peur que la prochaine relation se passe de la même façon. Donc, on ne sait pas trop comment faire parce que moi, j'ai commencé à chercher sur Internet et je trouvais pas grand-chose. J'en ai parlé à des médecins et les médecins eux-mêmes ne connaissaient pas forcément puisque j'avais rien. J'avais pas d'infection, donc pour eux, c'est comme si j'avais rien au final. Du coup, on se dit forcément que on a rien, que c'est dans la tête et en plus de ça, notre relation marche pas. Donc, ça devient compliqué pour la confiance en soi, quoi.
Et Morgane, vous évoquez justement des médecins. Comment se passait et comment se passent les visites chez un gynécologue où forcément l'auscultation peut être un stress peut-être pour vous ou douloureuse même?
Oui, c'est un stress, c'est très douloureux. Parfois, c'est pas possible. Du coup, on leur expose le problème. On leur dit je viens vous voir parce que j'ai des douleurs, surtout au moment de la pénétration, mais on ne le dit pas aussi clairement, je pense, parce qu'on a un peu honte qu'ils ne nous écoutent pas ou qu'ils ne nous comprennent pas, alors que c'est des médecins. Et puis ensuite, ils nous auscultent et on comprend qu'ils ne nous prennent pas forcément au sérieux, puisqu'ils essayent malgré tout de mettre le spéculum, alors que jamais rien n'est passé, quoi. Mmh. Et ça m'est déjà arrivé de ressortir d'un examen gynécologique en pleurs et de me dire que c'était dans ma tête, que j'étais folle, enfin qu'il y avait pas d'autre moyen de s'en sortir, enfin voilà, d'être complètement encore plus perdue, je pense, que avant le rendez-vous.
Mais alors, à quel moment avez-vous été diagnostiquée et par qui, puisque vous évoquez des gynécologues qui ne vous prenaient pas au sérieux?
Alors moi, j'ai été prise au sérieux par un médecin traitant il y a un an et demi à peu près.
Oui.
Enfin, c'est tout simple. En fait, j'ai été chez le médecin pour changer de contraception et elle m'a dit, ah, mais je vous ai pas fait le test pour vérifier que vous n'étiez pas enceinte. Et je lui ai balancé froidement, bah, de toute façon, vous inquiétez pas, je risque pas d'être enceinte. Pour ça, il faut un rapport et j'en ai pas. Et en fait, elle a creusé un petit peu et quand je lui ai expliqué mes symptômes, elle m'a dit, bah, en fait, vous avez un vaginisme et il y a des spécialistes comme Madame Pourron située à 5 minutes de mon cabinet,
Oui.
qui est kinésithérapeute en sexologie et qui s'occupe de la rééducation périnéale dans cette pathologie qui est le vaginisme. Et donc elle m'a donné ses coordonnées, elle m'a demandé de prendre rendez-vous et après j'ai pris rendez-vous et ça s'est enchaîné quoi.
Alors, vous avez rencontré votre compagnon actuel, hein. Vous aviez peur de lui en parler au début?
Oui, au tout début, j'avais peur, surtout que c'était un homme un peu plus vieux que moi, qui avait un peu plus d'expérience dans ce domaine, et j'avais peur d'avouer, en fait, que moi, j'étais novice et que ça ne fonctionnait pas à chaque fois, et j'avais peur qu'il s'en aille et qu'il trouve mieux ailleurs, quoi.
Oui, mais vous avez fini par vous en ouvrir à vous, à lui.
Bah, si vous voulez, enfin, j'avais pas trop le choix parce que au bout d'un moment, les préliminaires c'est bien, mais la pénétration, enfin la question de la pénétration se pose quand même.
Oui.
Donc, j'avais pas vraiment le choix. Quand une fois, deux fois, ça rentre pas, au bout de la troisième fois, il se doute bien qu'il y a quelque chose derrière et que c'est pas forcément lui non plus, parce qu'il s'est posé la question quand même de savoir si c'était lui. Mais du coup, je pouvais pas le laisser en lui disant, bah oui, c'est peut-être toi, alors que je savais très bien que non. Donc, effectivement, là, il a été au courant. Dès le début, enfin.
Morgane, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre histoire et voir comment vous avez réussi à vous reconnecter à votre corps, à connaître votre corps et où vous en êtes aujourd'hui.
Europe 1.
Perte de libido, douleur, vaginisme, trouble de l'érection quand la sexualité dans votre couple dysfonctionne. Le 39-21 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Comment surmonter les problèmes sexuels dans le couple, baisse de la libido, trouble de l'érection, vous témoignez au 39-21.
Et nous sommes toujours avec Morgane qui, dans la première partie de cette émission, nous évoquait les débuts de sa sexualité où elle avait vécu ce trouble comme quelque chose qui pouvait lui laisser penser qu'elle n'était pas normale, qu'elle était folle, et puis qu'enfin, un médecin, et non un gynécologue, un médecin traitant, l'avait enfin orientée et qu'elle avait pu poser un diagnostic sur ce trouble qu'est le vaginisme. Morgane, vous parliez de vous reconnecter à votre corps, d'apprendre à connaître votre corps. Vous avez consulté un kinésithérapeute pour résoudre ce trouble, hein, je crois.
Oui, c'est ça. Au-delà de la rééducation, en fait, elle m'a également appris comment marchait mon corps, la place par exemple que le vagin avait, qu'il était élastique. Elle m'a fait une éducation sexuelle parce qu'on s'aperçoit souvent que la femme vaginique a peur également parce qu'elle ne connaît pas suffisamment son corps.
Oui.
Et je me suis aperçue également que c'était mon cas, que malgré une famille très ouverte et très peu de tabous, finalement je connaissais très très peu mon corps ou du moins l'intérieur de mon corps, ce qui fait que j'avais pu développer une certaine peur. Et effectivement, cette kiné, il y a eu un accompagnement, je dirais, autant psychologique que physique. Même si j'avais déjà vu des psychologues auparavant, le fait que ce soit une kiné qui sache de quoi elle parle, ça a eu pour moi un petit peu plus d'impact.
Et généralement, lorsqu'on se reconnecte à soi-même, on prend du recul face à ses peurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui connaissez mieux votre corps, Morgane, est-ce que vous avez une idée des origines de cette peur et de ce trouble qu'est le vaginisme?
Je pense que c'est un tout. Ça a commencé par le fait que j'étais sûrement très réservée et très introvertie. Et pour moi, me mettre à nu, par exemple, devant un homme ou un adolescent à l'époque, c'était quelque chose d'assez gênant. J'étais très pudique.
Oui.
Et puis ensuite, je pense que, enfin voilà, j'ai eu des expériences néfastes. Donc ça n'a pas aidé non plus. Et voilà, je pense que c'est un tout en général qui peut subvenir. Ça peut être aussi du harcèlement scolaire qui va un petit peu plus loin que des mots. Ça
Oui.
peut être voilà. Enfin, pour moi, je pense que ça a été vraiment un tout. Et puis du coup, ben ça, enfin, une chose en engendre une autre, et puis du coup, ça fait un blocage total au final.
Est-ce que vous pensez que le fait justement d'avoir eu des premiers rapports qui ont peut-être été un peu violent pour vous, qui vous ont bousculé, ont pu créer ces peurs et ce blocage.
Complètement, je pense que, enfin, Quand on n'est pas prêt à quelque chose et qu'on se bouscule, ça peut engendrer une espèce de phobie. Et là, je pense que c'est ce qui s'est un peu passé. J'ai développé une espèce de phobie intime. Et je pense qu'il n'y avait aucun élément derrière pour me rassurer. Donc, ça a continué comme ça jusqu'à mon conjoint actuel qui a su trouver les mots et les gestes
Oui.
pour me conforter et me rassurer.
Et des gestes sûrement beaucoup plus doux et beaucoup plus respectueux hein, que vous avez pu en connaître avant. Vous avez créé un blog Ingrédients de bonheur, c'est le nom de ce blog, dans lequel vous racontez votre expérience. Quel message vous souhaitiez faire passer aux femmes qui souffrent de troubles similaires?
Alors déjà, quand j'ai créé le blog, je voulais informer et orienter correctement. En fait, je voulais leur éviter
Perdre du temps.
de perdre du temps, voilà, comme moi j'ai pu en perdre, parce qu'au final j'en ai perdu 5, et quand j'ai perdu, enfin 5 années, pardon,
Oui.
et quand j'ai discuté avec ma kiné, elle me disait que des fois c'était des femmes qui, au bout de 50 ans, ne connaissaient toujours pas la pénétration vaginale.
Oui.
Et du coup, je voulais éviter, voilà, de perdre du temps. Je voulais également éviter d'avoir des expériences malveillantes avec des professionnels qui se disent professionnels et qui ne le sont pas au final, et qui peuvent avoir un effet encore plus négatif sur leur état de santé. Et je voulais également leur transmettre un message qui est c'est pas parce que vous avez un vaginisme et que vous ne pouvez pas avoir de pénétration à proprement parler que vous n'êtes pas normal. Vous êtes normal, c'est juste qu'il faut apprendre à faire autrement, à faire différemment, mais vous êtes tout ce qu'il y a de plus normal, c'est juste différent. Et je voulais également montrer que, voilà, une vie de couple, c'est possible. Moi, j'ai eu des échecs, mais à côté de ça fait presque 7 ans que je suis avec mon conjoint actuel, et ça fait que 1 an et demi qu'on peut avoir des rapports quotidiennement. Donc, du coup, voilà, c'était un ensemble de messages que je voulais faire passer. Si moi j'ai réussi, pourquoi pas vous? C'est normal, enfin, vous êtes normal, et rassurez-vous, ça n'empêche pas une relation amoureuse d'exister.
Merci pour tout cela, Morgane. Merci mille fois pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous allons accueillir le docteur Catherine Solano, qui est sexologue et andrologue.
Et le témoignage de Laure. J'ai 22 ans, je souffre de vestibulite. C'est une inflammation chronique de l'entrée du vagin. Ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Durant notre première année de relation, notre vie sexuelle était top. Puis lors d'un rapport, j'ai senti comme des milliers de piqûres qui me plantaient. Après de nombreuses consultations, nous dit Laure, des diagnostics différents, des traitements. Alors c'est maintenant que c'est une vestibulite. Alors pour se soigner, nous dit-elle, une rééducation chez le kiné, un soutien psy et surtout le soutien de ma famille et de mon copain.
Europe 1.
Quand faut-il s'inquiéter de ces troubles sexuels? Quels sont vos questionnements? Quelles sont vos solutions? On vous écoute au 3921.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Dans votre vie sexuelle peuvent rapidement tourner au conflit. Vous rencontrez des troubles de la sexualité. Ça peut concerner monsieur, ça peut concerner madame. Comment faites-vous pour surmonter cette épreuve? Ensemble, vous êtes avec Olivier Delacroix, on vous écoute au 3921.
Et pour parler de ces troubles et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre couple ou tout simplement sur notre personnalité, sur la confiance que nous pouvons avoir en nous, nous accueillons maintenant le docteur Catherine Solano, sexologue et andrologue. Bonjour docteur, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors docteur, on vient d'entendre Morgane parler du vaginisme, mais en règle générale, ces troubles sexuels sont-ils fréquents?
Alors les troubles sexuels en général, c'est très très fréquent. C'est même rare, une personne qui est arrivée à 70 ans n'a jamais eu de troubles sexuels de sa vie. Parce que tout simplement, à cause de la vie, la première fois peut ne pas être facile. Il y a des hommes qui ont eu une éjaculation précoce. Presque tous les hommes ont connu un jour une panne d'érection, parce qu'ils étaient stressés, qu'ils avaient trop bu ou qu'ils avaient mal dormi la veille. Les femmes à la ménopause peuvent avoir des sécheresses vaginales. Après une grossesse, des troubles du désir. Quand on est dépressif, et c'est une personne sur 5 qui vit une dépression, on a des problèmes sexuels, soit parce qu'on n'a pas de désir, soit parce qu'on a des médicaments qui bloquent l'orgasme. Enfin, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes sexuels. Évidemment, souvent, c'est passager quand même.
Mais alors, on parlait du vaginisme, vous parliez aussi des troubles de l'érection. Est-ce qu'on a réussi à isoler quelles étaient les causes principales de ces troubles?
Ça dépend. Le vaginisme, ça peut être une cause physique. Hein. C'est extrêmement important d'avoir un bon examen gynécologique, parce que j'ai déjà vu pas mal de cas de femmes qui avaient vu plusieurs gynécologues, qui leur disaient tout est normal, et en fait, elles avaient une petite bride, par exemple, qui leur faisait mal et qui se déchirait à chaque rapport, donc elles n'avaient pas possibilité d'avoir des rapports sexuels sans avoir très mal. Donc, ce n'est pas forcément dans la tête, vous voyez. Oui. Ensuite, le vrai vaginisme dont on parle en général, c'est plutôt quelque chose de psychologique. Et c'est très souvent, il y a plusieurs causes, hein. Souvent, il y a un incident qui s'est passé. Par exemple, souvent, c'est un geste médical agressif. Ça peut être aussi des infections gynécologiques dans l'enfance ou très jeune qui font que la zone a tout le temps mal. Et du coup, la personne, quand quelque chose s'approche, ne supporte pas. Et ça peut être aussi être quelque chose d'encore plus psychologique. C'est un décès d'un enfant dans l'entourage.
Oui.
Un petit frère ou une petite sœur qui bloque la sexualité.
Catherine Solano, en fait, vous recevez beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent de ces troubles. Je suppose que les thérapies sont quand même sur le psychologique. Lorsqu'on entend vos explications, on entend beaucoup de souffrance en fait chez ces patients. Quelles sont les différentes thérapies? Elles sont basées sur on soigne les bobos de l'âme en fait pour arriver à soigner ces personnes?
Oui, mais j'ai bien aimé ce que disait Morgane, parce que avant de soigner les bobos de l'âme, il faut quand même faire un bilan médical. Par
oui.
exemple, voir pour un vaginisme s'il y a une bride ou une anomalie, parce que des fois, il faut faire une petite intervention pour réparer ce qui fait mal, par
oui.
exemple. Ensuite, il y a l'éducation, tant pour les hommes que pour les femmes. Par exemple, pour l'éjaculation précoce ou les troubles de l'érection, ou pour le vaginisme, on va expliquer pourquoi le corps réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe, expliquer ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a des exercices physiques. Par exemple, pour le vaginisme, on peut faire des exercices physiques chez un médecin. Moi, je suis des patients, je leur fais faire des exercices hein, qui sont comme un toucher vaginal, mais d'apprivoisement, pas du tout gynécologique.
Oui.
Soit la femme fait des exercices toute seule chez elle pour s'entraîner à apprivoiser sa vulve, soit avec son mari ou son conjoint. Et puis, il y a aussi le travail de psychothérapie. Morgane parlait, par exemple, de harcèlement aussi, d'expérience violente.
Oui. Oui.
Voilà, moi, je fais beaucoup de MDR, qui est une thérapie pour travailler sur les traumatismes qu'on a vécu, que ça soit un geste malencontreux, quelque chose de violent, des insultes, j'en sais rien, moi, un tampon qui a fait très mal, un médecin qui vous a fait un toucher rectal sans vous prévenir à 7-8 ans. Enfin, on fait des séances pour que le cerveau classe ça comme étant du passé et n'ait pas peur quand il se trouve dans l'intimité avec quelqu'un qu'il aime.
Docteur Catherine Solano, le couple peut-il durer sans relation sexuelle régulière aujourd'hui? Est-ce vraiment le ciment du couple?
Alors oui, je dis oui, c'est évident, parce que moi je vois des femmes qui ont un vaginisme depuis 10 ans, qui sont mariées depuis 15 ans, et qui disent on a un problème, mais on s'aime, on ne veut pas divorcer. Et d'ailleurs, on a une vie sexuelle sans pénétration,
oui.
et on veut que ça s'arrange, mais on n'a pas envie de se séparer pour autant. Donc ça, c'est certain qu'il y a des... Et il y a des hommes aussi qui n'ont plus du tout d'érection pour des problèmes de santé, ou etc., et qui restent en couple, et leur partenaire n'a pas du tout... Je pense à une patiente qui me dit « Mon mari a été opéré de la prostate, il n'a plus aucune érection, donc on n'avait pas de sexualité, seulement il est dépressif. » Et j'ai osé lui dire « Est-ce que tu peux me caresser ?» Parce qu'elle me dit « Vous savez, dans ma génération, on n'osait pas beaucoup demander des choses comme ça. » Et elle me dit « Il m'a donné beaucoup de plaisir et tout ça. » Et j'ai vu le lendemain, comme il était content, il revivait. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Même si tout ne fonctionne pas, on peut quand même se rapprocher avoir une sexualité.
Docteur Solano, je rappelle que vous êtes sexologue et andrologue. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons accueillir André. Il a longtemps souffert d'éjaculation précoce. Et on va le voir, cela a eu un impact important sur sa confiance en lui.
Europe 1.
Si vous rencontrez des problèmes dans la vie intime de votre couple, on vous écoute au 39-21. Le stress, la routine, des soucis de santé ont beaucoup d'impact sur votre libido, votre sexualité. Vous pouvez aussi réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Posez le 39-21 pour nous appeler, pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Vous rencontrez des troubles du désir, une baisse de libido, des troubles de la sexualité. Comment le vivez-vous au quotidien dans votre couple? On continue d'en parler avec vous. Et voici Lady Gaga avec Always Remember Us This Way. Dans le film Star Is Born, Lady Gaga avec Always Remember Us This Way sur Europe 1. Quel impact ont les troubles sexuels sur votre libido? Vous témoignez au 39-21 et vous discutez avec Olivier Delacroix. Vous réagissez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec André. Bonjour André, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors André, vous avez souffert d'éjaculation précoce, un trouble fonctionnel qui reste très tabou, dont on n'ose pas trop parler. Vous dites que lorsque vous étiez jeune, ça a eu un effet dévastateur sur vous. Expliquez-moi.
Ça a été dévastateur dans le sens où quand on est jeune, rien que d'en parler déjà, l'émotion elle monte.
Oui.
Parce que on a des réflexions, on a des remarques, mais depuis l'adolescence, si vous voulez, à partir du moment où on a ce ressenti, censé savoir que c'est une éjaculation précoce, parce que enfant, on pense que c'est dans la normalité.
Oui.
Et... Oui, on n'est pas préparé, on n'a pas eu une éducation, on nous a pas montré du doigt, voilà, ça c'est bien, ça c'est des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Enfant, c'était pour moi une normalité. Ensuite, après l'adolescence, ça a été un peu plus délicat. Ça a été les réflexions, ça a été les remarques. Oui.
Des remarques qui émanaient des jeunes femmes avec qui vous aviez des rapports ?
Oui, oui, c'était délicat, c'était du rejet. C'était. Je me rappelle de cette phrase que je m'étais dit plusieurs fois, c'était je dois être un mauvais con,
oui.
Ou quelque chose comme ça. C'est mm-hmm. quelque chose qui m'a marqué.
Et lorsqu'on est adolescent, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de remettre en question sa virilité.
D'autant plus, plus, oui. Vis-à-vis de notre entourage, quand on est jeune, on a des copains, mais on n'en parle pas. C'est pas des choses dont on parle. C'est pas même en tant qu'homme, de l'adolescent jusqu'à un certain âge, si on ne s'intéresse pas à soi-même, on peut pas le savoir.
Mm-hmm. Ça vous a fait perdre confiance en vous dans d'autres domaines autres que la sexualité ?
Le relationnel avec les femmes.
Oui. Pourquoi les hommes n'osent pas parler de ce problème, d'après vous ?
Intime.
Oui.
C'est pas quelque chose où on va s'ouvrir avec un collègue, même pas avec son frère. On n'en parle pas. On est gêné. C'est de la pudeur, peut-être, je ne sais pas. On se sent un petit peu rabaissé par rapport à aux personnes à qui ça se passe très bien. Enfin, pour moi, ça a été mon histoire dévastateur. Oui.
De la pudeur, de la honte aussi ?
Énormément, oui.
Quel impact cela a eu sur vos relations amoureuses ?
Ça, c'est encore autre chose. Les relations amoureuses, c'était... je jouais un rôle, en fait. J'étais tellement concentré sur ma partenaire de l'instant, en tout cas, que je n'arrivais pas à me concentrer. Je voulais tellement donner du plaisir, du désir, que je n'y arrivais pas.
Mm-hmm.
Si vous voulez, les préliminaires, c'était parfait, mais je les faisais tellement durer pour profiter de l'instant et la crainte aussi d'être rejeté. Ça m'a fait peur, oui.
Oui, ça vous a accompagné visiblement un bon bout de temps. Aujourd'hui, vous êtes avec une femme qui vous a beaucoup aidé à reprendre confiance en vous.
Énormément.
Comment s'y est-elle pris ? Oui.
C'est plutôt son calme, sa compréhension, sa patience. Enfin, c'était une détresse pour moi. Je voulais tellement donner du plaisir, je voulais tellement apporter quelque chose de positif pour qu'elle soit heureuse. Quand ça, je ne pouvais pas me retenir, c'était de l'éjaculation précoce. Je craignais d'être refoulé. Donc elle a été très, très ultra patiente avec moi et ça a été révélateur pour moi.
Mmh. Et puis j'en profite pour ajouter qu'il y avait beaucoup d'amour. Cela passe aussi par là, par oui, ce sentiment qui vous unissait. Comment avez-vous réussi à soigner ce trouble ?
Je tiens à remercier Mme Maridon parce que c'est grâce à elle, grâce à son stage. C'est récent dans le sens où ça fait moins d'un an que ça s'est fait. Et c'était un stage sur 2 jours. Et sur 2 jours, j'ai appris à connaître mon corps, en fait.
Oui.
À comprendre, à contrôler ses pulsions.
Ce stage, pardonnez-moi de vous interrompre, en fait, mais ce stage, il était individuel ou collectif ?
Ah non, individuel.
D'accord. Je suis curieux de savoir, en fait, comment, en fait... On vous amène à vous reconnecter avec votre corps, à connaître votre corps, comme vous dites.
En fait, déjà, à apprendre à respirer.
Oui.
À contrôler aussi les muscles de l'abdomen, du bassin.
Mmh.
Ça a été un travail qui a été de...
Longue haleine.
Oui, mais pour moi, c'était du nouveau. Ça a mis un certain temps pour l'acquérir, pour l'apprivoiser aussi.
Merci André pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, parce que parler de ce trouble est encore très tabou. Et puis, il faut beaucoup de courage pour le faire. Alors merci. Et j'en profite pour remercier aussi Madame Baridon qui nous a permis d'échanger aujourd'hui avec vous, André. Madame Baridon, responsable du site éjaculationprécoce.com. Dans un instant, nous accueillerons Cécile. Elle ne sait pas de quoi elle souffre exactement, mais elle est inquiète pour son couple encore tout frais.
Europe 1. Comment votre couple résiste-t-il malgré une vie sexuelle chaotique ? Vous témoignez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous écoutez, vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous rencontrez des problèmes liés à votre sexualité dans votre couple. Arrivez-vous à en parler ? Et comment faites-vous pour vous en sortir ? Vous témoignez au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Cécile sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Cécile, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors vous Cécile, vous essayez de comprendre d'où peuvent venir les douleurs que vous ressentez pendant les rapports sexuels, car depuis l'automne, vous avez des démangeaisons et des brûlures constantes. Vous mettiez ça avant sur le compte d'une maladie bénigne au départ ?
Oui, c'est ça. En fait, au départ, je pensais à une mycose.
Oui.
Tout simplement, c'est quelque chose que la plupart des femmes connaissent. Les symptômes sont assez facile à identifier, puis on trouve des traitements sans ordonnance qui habituellement fonctionnent bien.
Mmh.
Sauf que là, en fait, c'était persistant, ça revenait régulièrement avec des épisodes de plus en plus rapprochés et puis des traitements qui étaient sans effet, en fait, d'une fois sur l'autre.
Et ces démangeaisons et ces brûlures constantes, vous ne les aviez que lorsque vous aviez des rapports sexuels ou cela continuait après ?
Au départ, c'était surtout provoqué par les rapports sexuels. Et maintenant, c'est constant, en fait.
Mm-hmm.
Rapport sexuel ou pas, c'est tout le temps.
Alors, vous avez fait des dizaines d'examens, hein, Cécile, qui sont restés sans réponse à vos questions, pour l'instant. Les douleurs se sont amplifiées, je crois, aujourd'hui ?
Oui, c'est ça. Alors, peut-être pas des dizaines, disons que comme ça passait pas et que l'examen clinique ne montrait rien, en fait, le gynéco m'a fait faire des prélèvements, des prises de sang qui donnaient rien du tout. Et pourtant, les sensations sont là. Ça va de la simple gêne par moment, voilà, une petite démangeaison comme ça peut arriver parfois, à la vraie douleur. Et ça peut être amplifié par n'importe quel contact, c'est-à-dire que les vêtements, bon, les relations sexuelles évidemment, mais même la position assise, parfois, en fonction du siège, en fonction de la position dans laquelle je m'assieds, ça peut être inconfortable et ça ne s'arrête jamais vraiment. C'est au moins un inconfort
permanent,
qui est constant et permanent. Ouais. Et c'est très usant. En fait.
Oui, je suppose. Ouais. Il y a quelques mois, vous avez rencontré votre nouveau compagnon qui est très compréhensif et prend soin de vous aujourd'hui. Pourtant, vous lui avez parlé de vos douleurs il y a seulement quelques semaines. Qu'est-ce qui vous bloquait ? C'était tabou de parler de ce type de trouble ?
En fait, c'est gênant. C'est un peu gênant.
Oui.
Et puis, déjà, je crois que en tant que femme, d'une manière ou d'une autre, on a un peu appris à serrer les dents, à pas trop dire quand ça va pas, à se forcer un peu. Et puis, en fait, moi, je pensais surtout que ça passerait, que comme c'est pas spécialement contagieux, en fait, j'aurais même pas vraiment besoin d'en parler. Ça se traite, c'est terminé. Et puis, on n'en parle pas parce que j'ai pas besoin de le dire.
C'était votre crainte majeure qu'il pense justement que cela soit contagieux ?
Pas forcément, mais à partir du moment où, enfin, si c'était contagieux, j'en aurais nécessairement parlé pour éviter que lui soit infecté aussi. S'il y avait une mycose, une infection, quelque chose, enfin, voilà, à ce moment-là, j'en aurais parlé.
Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Comment a-t-il réagi ?
Pour l'instant, il est compréhensif et très patient, mais pour lui, je me soigne et ça va aller. Et si le gynéco, si mon gynéco ne trouve pas, il suffit que je change de médecin qui me prescrira autre chose et puis ça se réglera.
Votre peur aujourd'hui, c'est que cela dure et que cela le fasse fuir au final.
Alors fuir, j'espère pas.
Oui.
Voilà, c'est quelqu'un de vraiment très bien et je pense pas qu'il fuirait, mais j'ai peur que ça casse quelque chose en fait, parce que c'est une relation qui est récente. Moi, je suis en pleine séparation, très conflictuelle, donc il m'accepte avec mes enfants petits, mes problèmes d'argent, le conflit avec mon ex, mon humeur qui forcément s'en ressent. Donc si en plus la sexualité est laborieuse ou compromise, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Vous voyez.
Alors, vous vous êtes tout de même renseigné hein, sur ce mal constant et vous avez découvert que cela pouvait être éventuellement une vulvodynie. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une vulvodynie et quels en sont les symptômes qui semblent se rapprocher de ce dont vous souffrez?
Ben en fait oui voilà, moi j'ai cherché avec mes symptômes et en précisant sans infection, sans mycose, sans rien, et je suis tombée sur ce terme-là. C'est exactement les symptômes que moi j'ai, c'est-à-dire que ça va de la démangeaison à la brûlure, plus ou moins localisée, plus ou moins étendue, plus ou moins constante. Et en gros, d'après ce que je comprends, c'est un peu le nom générique qu'on donne à toutes ces douleurs chroniques qu'on n'arrive pas à expliquer, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai lu, on ne sait pas à quoi c'est dû. Et c'est ce qui est déroutant et ce qui ne simplifie pas après la prise en charge. Les médecins qui sont penchés sur la question n'arrivent pas à trancher entre l'origine neuropathique, est-ce que ça peut être une fibrose qui se développe après une infection ou une mycose récidivante. En tout cas, il y a un élément qui ressort régulièrement, c'est que le facteur psychologique, le stress et l'anxiété influent.
Oui.
Mais du coup, en fait, vulvodynie, c'est un peu le terme générique dans lequel on met tout ce qu'on ne sait pas trop expliquer, mais ça a au moins le mérite de mettre un terme et de se dire que c'est pas imaginaire, en fait, que c'est pas dans ma tête, quoi. J'ai vraiment mal et je l'invente pas.
On va pouvoir continuer à parler de votre trouble, Cécile. On va pouvoir même échanger sur ce trouble avec Catherine Solano, qui est sexologue et andrologue. On continue d'en parler dans quelques instants.
Europe 1. Vous ne vivez pas ce qu'on appelle une sexualité épanouie, vaginisme, éjaculation précoce, absence de libido. Vous êtes passé par là, vous échangez avec nous au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Quand les relations intimes ne sont plus synonymes de plaisir, nous parlons des troubles de la sexualité. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. On écoute le duo Daisy avec Mama Told Me sur Europe 1. Leur album Better Days Are Coming Soon devrait sortir cet été. Le duo Daisy sur Europe 1 avec Mama Told Me. Nous parlons du couple à l'épreuve des troubles de la sexualité. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Cécile qui nous expliquait avoir ressenti des douleurs, des démangeaisons et des brûlures de manière constante et qui, après plusieurs examens, eh bien, n'avait toujours pas de réponse, avec tout de même une hypothèse aujourd'hui, celle de souffrir d'une vulvodynie. Et nous allons en parler avec Catherine Solano, qui est sexologue et andrologue et qui nous apporte ses éclairages aujourd'hui. Mais avant tout, Cécile, vous parlez d'injustice quand vous évoquez vos problèmes aujourd'hui. D'abord, vous évoquez aussi le stress hein, qui est sûrement dû à cette séparation qui paraît ne pas trop bien se passer. C'est de cette injustice-là, de ce stress-là dont vous parlez ?
En fait, j'ai un sentiment d'injustice parce qu'au fil des années, j'ai développé un rapport assez difficile avec la sexualité que j'ai vécu vraiment sur le mode de la contrainte pendant les dernières années oui. Avec mon ex-conjoint, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'estime de soi, la confiance en l'autre, la libido, etc. Du coup, ça a été un des déclencheurs pour que je quitte mon ex-conjoint, mais n'empêche que ça est quand même arrivé à plusieurs reprises après une période où c'était... Voilà, je disais juste que j'avais pas très envie, mais que j'acceptais de laisser faire, quoi. Mm-hmm. Donc, bon, ça a été... Voilà, et quand j'ai quitté mon ex-conjoint, je m'étais juré que plus personne poserait la main sur moi, ou en tout cas pas tout de suite. Et puis du coup, cette rencontre-là, elle est arrivée de façon totalement inattendue,
oui.
Assez intense. Je me suis confiée tout de suite sur ces difficultés, sur mon vécu et sur la peur terrible que j'avais par rapport à la sexualité. Et mon nouveau compagnon a été très, très délicat, très prudent, très à l'écoute. Et en fait, c'est revenu incroyablement vite. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça revienne avec autant de facilité. Et du coup, aujourd'hui, ressentir cette douleur, cet inconfort qui sont invalidants, en fait.
C'est là où vous parlez d'injustice.
Oui. Voilà, au moment où je redécouvre que ça peut être spontané, ça peut être épanouissant, oui. Ça peut être simple, ça peut être très chouette.
Oui.
Et où cette relation-là qui est complète avec beaucoup de gaieté, beaucoup de complicité, ben, je m'en sers aussi pour puiser de l'énergie, pour affronter tout le reste. Le fait que ça... puisse potentiellement, alors que déjà ça soit plus compliqué et que ça puisse potentiellement être mis en péril, en fait, je vis ça vraiment comme
une injustice.
J'ai l'impression que mon corps me lâche maintenant et que c'est vraiment pas le moment, quoi.
Docteur Catherine Solano, on vient d'écouter avec attention le témoignage de Cécile qui parler donc d'éventuelles vulvodynies, hein, ce diagnostic restant à établir de manière certaine. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette vulvodynie ? Est-ce que elle se soigne ? Est-elle déclenchée par ce type de choc, comme Cécile l'évoquait, viol conjugal, stress dû à une séparation visiblement très douloureuse ?
Je vais essayer de dire des choses hyper pratiques. Oui. La première chose, c'est que quand une femme a quelque chose comme Cécile, il faut consulter aussi un dermatologue. Oui. Parce qu'au niveau de la vulve, il n'y a pas que les mycoses et les maladies comme ça, il y a aussi des maladies de la peau qui se trouvent au niveau de la vulve. Par exemple, on peut avoir un psoriasis au niveau de la vulve, un lichen au niveau de la vulve. Ce sont des maladies dermatologiques et des fois les gynécologues et les sexologues, hein, comme moi, sont moins bien placés pour diagnostiquer ça. Et des fois, ça traîne très longtemps parce qu'on ne voit pas la bonne personne. Bon, ce n'est pas forcément le cas de Cécile, mais je trouve que c'est très important de le dire. Moi, je vois souvent des cas comme ça. Mmh. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand Cécile raconte ce qu'elle a vécu, moi, j'ai l'impression que son corps a été forcé d'avoir des relations sexuelles, a été violé et que du coup, en plus, elle s'est dit, je me jure que plus personne ne me touchera, et quelqu'un la touche, même si c'est pas dans les mêmes circonstances, heureusement, et du coup, c'est comme si son corps refusait, disait non, je ne veux pas qu'on me touche. Et donc, à mon sens, elle a certainement, elle bénéficierait très certainement d'un traitement des traumatismes, comme maintenant, on utilise beaucoup le MDR ou des thérapies comportementales pour travailler sur les agressions qu'elle a subies, les viols qu'elle a subis, de manière à ce que son cerveau les classe dans le passé, oui, et ne se dise pas, quand elle a un rapport sexuel, « ça y est, je suis encore agressée, il faut que je me fasse mal », vous voyez, mm-hmm, qu'elle ait plus de réflexe, quoi.
Ce qui a pu provoquer, en tout cas, ces démangeaisons et cette douleur constante chez Cécile. Docteur Catherine Solano, je rappelle que vous êtes sexologue et andrologue. Merci pour vos éclairages, merci pour ces conseils. J'espère que Cécile, vous aurez entendu que vous pouvez maintenant aussi aller voir un dermatologue aussi, peut-être ce que vous n'avez pas encore fait. En tout cas, mille merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Morgane et à Patrice de nous avoir livré leur histoires, avoir eu le courage de témoigner cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Passager ou plus durable, les troubles sexuels sont plus fréquents qu'on ne l'imagine. Les personnes qui en souffrent osent peu en parler, car dans une société où la performance sexuelle est mise en avant, elles ont l'impression d'être anormales. Il ne faut pourtant pas hésiter à en parler avec son partenaire et se rassurer mutuellement. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes atteint de ces troubles, sachez que l'association Les Clés de Vénus, par exemple, existe et peut vous conseiller des thérapeutes pour vous aider. Car n'oubliez pas, les troubles sexuels ne sont pas une fatalité et on peut avoir une sexualité épanouie après avoir consulté et échangé comme on en a envie. On peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Oui, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, c'est la vôtre, hein, n'hésitez pas. Instagram Olivier Delacroix officiel. Et puis si vous le souhaitez, vous pourrez discuter, échanger ce soir avec Sabine Marin, la libre antenne du week-end sur Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de l'hypocrisie. A-t-elle un rôle prédominant dans notre société ? Est-elle indispensable aux relations sociales ? Si vous avez appris à être hypocrite, si vous êtes honnête et transparent et que vous refusez l'hypocrisie, si pour vous il est impossible de tout dire, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial de cette semaine. Merci à Boris Paczynski à la réalisation et à vous, ma chère Ambline.
Merci.
J'ai été comme d'habitude ravi de passer cette heure en votre compagnie. Et il est maintenant bientôt temps de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Alors aujourd'hui, deux tontons flingueurs avec qui on aura des Larsen et puis de l'humour, mon cher Carl.
Olivier, je sais que tu n'es plus tout jeune, donc tu connais forcément le groupe mythique Magma. Eh bien, je reçois Christian Vander, accompagné du jeune comique Jonathan Lambert.
15-0 et c'est tonton flingueur, c'est à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et bien évidemment, je vous retrouverai avec un grand plaisir lundi à partir de 15h. Bon week-end, au revoir.